À l'orgue, Barbara Dennerlein, à la guitare, Mitch Watkins, ou à la batterie, Dennis Chambers, au trombone, Ray Anderson, au ténor saxophone, Bob Berg, et au trombone, Ray Anderson. C'est la musique endiablée que vous venez d'entendre. Et tout de suite, une chanteuse brésilienne, Margaret Menezes. Vous savez que les Brésiliens viennent d'élire un nouveau président, qu'hélas, la société civile, les groupes de femmes en particulier, par exemple, savent très bien que ce n'est pas lui qui va faire beaucoup changer la situation de plus en plus dramatique, chaque jour plus grave pour une immense partie de la société brésilienne. Nous espérons très prochainement avoir des nouvelles sur le terrain avec nos amis du SOS Corpo à Recife, dans le Pernambouco, au nord-est brésilien, de ce que les gens qui aujourd'hui doivent continuer la vie avec ou sans nouveau président, qu'est-ce qu'il va se passer tout de suite. Margaret Menezes, Mère Nature.
Sintetizar a pétala de uma flor, submergindo as tristezas da vida. Não há ser humano que resista ao poder do amor. Natureza, mãe. No céu, uma estrela tua de cetim. Ser amante da ternura, o reggae em seus olhos é pedra de rubi. Madrugada perfeita no céu, uma estrela tua de cetim.
C'était Margaret Menezes, cette chanteuse brésilienne dont je viens de vous parler. Je vous ai annoncé tout à l'heure que, en dernière partie d'émission, j'avais envie de vous entraîner dans quelques textes tirés de la poésie populaire d'Afghanistan. Et en l'occurrence, poésie écrite par des femmes pachtounes.
Ya bandai chuye ni andriya ya se te ke deo mina ma ban chune ke ga wa na na he ra ga de bai bai ya mo mini
Dans les vallées afghanes, dans les camps de réfugiés du Pakistan, les femmes pashtounes, cette ethnie qui se trouve justement à la frontière, proche de la frontière du Pakistan, ces femmes improvisent des chants d'une extrême intensité, d'une foudroyante violence. Je n'ai hélas pu trouver enregistré que des chants équivalents interprétés par les hommes. C'est ce qui ponctueront au fur et à mesure de ma lecture les poèmes des femmes et les introductions que je tire d'un petit livre bijoux précieux écrit par Saïd Bahodin Majrou, écrivain afghan assassiné récemment. Je vous en parle tout de suite. Saïd Bahodin Majrou est né le 12 février 1928. Il a été assassiné le 11 février 1988 à Peshawar, au Pakistan. Il a été docteur en philosophie de l'Université de Montpellier, doyen de la faculté des lettres de Kaboul, gouverneur de la province de Kapisar. Après l'invasion soviétique de l'Afghanistan, il s'est exilé à Peshawar, où il fonde le Centre afghan d'information, qui diffuse dans le monde entier reportages et analyses sur la résistance. Il est l'auteur d'une immense épopée qui a pour titre Ego Monstre, qui constitue l'ensemble poétique majeur de la littérature afghane du XXe siècle. Héritier d'Omar Khayyam, de Sanaï, de Rumi, mais aussi de Montaigne et de Diderot, Saïd Bahodin Majrou affirmait avec véhémence un profil d'humaniste irréductible. Cette immense épopée Ego Monstre a été traduite par des amis français. Ils n'ont été publiés qu'en France, puisque Saïd Bahodin Majrou n'a pas eu le temps de les publier en Afghanistan. Il a été assassiné avant. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle « Le rire des amants », une histoire réelle qu'il a vécue lui-même. Je vous en lis un tout petit extrait. À son arrivée, tout était déjà joué. Le tumulte avait pris fin. La foule se désunissait lentement. À l'écart, quelques dignitaires religieux arboraient des barbes lugubres. Leurs turbans et leurs tuniques noires les enveloppaient d'une aura plus funèbre encore que de coutume. Le voyageur parvint au centre de la place. À demi enseveli sous un monticule de pierre, gisaient une femme et un homme, tous les deux très jeunes, couverts de boue et de sang. Le rire des amants, Saïd Bahodin Majrou. Le livre de Saïd Bahodin Majrou, dont je vais vous lire quelques extraits aujourd'hui, a pour titre « Le suicide et le chant ». Et c'est de la poésie populaire composée, puisque c'est plutôt de la littérature orale, par des femmes pashtounes. Alors je vous le disais, dans les vallées afghanes, mais surtout aujourd'hui dans les camps de réfugiés du Pakistan, ces femmes, les femmes pashtounes, improvisent des chants d'une extrême intensité, d'une foudroyante violence, très courts, qui portent le nom de landais, qui désigne ces brèves compositions. Et cela veut dire d'ailleurs, le mot landais signifie le bref. C'est une forme poétique qui est limitée à deux vers et qui compose en fait une sorte d'instantané d'émotion, si on peut dire, à peine plus qu'un cri, une fureur, un coup de dague entre les épaules. Car ce poème très scandé dit l'amour, l'honneur ou la mort, et toujours à travers ces trois thèmes, toujours la révolte. Jamais sans doute si courte vocalise n'a autant révélé sur l'inhumaine condition de la femme en islam, sur l'oppression qui la réduit à l'état d'objet domestique qui est la servie au code infantile des hommes. Privée de toute liberté, brimée dans ses désirs, les désirs de son corps, la femme pashtoune n'a d'autre échappée possible que le suicide. Ou le sang, le chant.
Le
Quelque chose de simple et d'essentiel s'affirme constamment dans la littérature orale en langue pachto. C'est le chant d'un être terrestre avec ses soucis, ses inquiétudes, ses joies et ses plaisirs. Pas du tout un chant mystique. C'est un chant qui célèbre la nature, les montagnes, les vallées, les forêts, les rivières, l'aube, le crépuscule, l'espace aimanté de la nuit. Bref, un chant qui se nourrit aussi de guerre et d'honneur, de honte et d'amour, de beauté et de mort, des sentiments très forts. Cependant, la grande originalité de cette poésie populaire, c'est la présence très active de la femme. Si comme partout, la femme est le support d'inspiration des reflets masculins, et c'est le cas des chansons que vous venez d'entendre, qui par exemple ont pour titre « De par le monde, nul homme n'est aussi traître et menteur que toi qu'a chanté l'homme pourtant, et pourtant il se fait le porte-parole de la femme, ou bien que sa tunique est belle, au col orné d'une rangée de pièces d'argent », telle était la deuxième chanson que vous avez entendue. Eh bien, donc, si elle est inspiratrice des refrains masculins, la femme s'impose surtout en tant que créatrice, en tant qu'auteur et sujet de nombreux chants. Ainsi, un genre exige-t-il toujours sa participation ? C'est celui qu'on appelle le bref, le landais. Il s'agit en effet d'un poème très court, je vous le disais, de deux vers libres en 9 et 13 syllabes, sans rime obligatoire, mais avec des sedis d'scansions internes. Bien sûr, comme je vais vous lire une traduction française du pachtou, vous ne retrouverez pas cette scansion et cette versification. D'avance, j'en suis désolée. Si je pouvais avoir quelqu'un qui nous les chantait en pachtou, ce serait beaucoup mieux. J'essaierai encore de retrouver, s'il s'est fait des enregistrements parfois de ces chansons interprétées par les femmes, cette poésie chantée par les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai pas trouvé. Ces landais sont vocalisés différemment selon les régions et ils ponctuent souvent les discussions comme une sorte de citation d'un dicton qui étaye un sentiment ou une idée. Mais c'est surtout comme un grand cri du cœur, comme un éclair, comme une flamme que le landais, par sa brièveté et son rythme, capte l'attention. Ce poème est anonyme, il entretient d'ailleurs une émulation quasi permanente parmi les femmes chaque après-midi, quand les filles du village s'en vont puiser l'eau à la source ou quand elles dansent et chantent pour une fête ou un mariage. De nouveaux landais s'improvisent et les meilleurs s'ancrent d'emblée dans la mémoire de tout le village. Chacun, homme ou femme, peut donc manifester une émotion, un désir, une plainte au moyen de ces deux vers chantés. Mais dans la forme grammaticale que l'inspiration aide à en distinguer les différents instigateurs. Les lettrés et les clercs usent des termes savants, entre autres des allusions coraniques, des expressions persanes, voire arabes, et leurs compositions sentent beaucoup l'artifice. Mais à l'opposition, les chants sans instruction littéraire et religieuse témoignent d'une vigueur accrue, de peu de préciosité, et même si leurs mélodies n'atteignent que rarement la sobriété profonde et pure des landais féminins. Ceux-ci, en effet, jaillissent de la part jalousement inculte ou tout du moins en friche de la communauté. Ils sont simples, fragiles, beaux comme les fleurs sauvages des plaines et des montagnes alentours. C'est ce qu'écrit Saïd Bahodine Majrou en introduction à son livre. Et c'est surtout que ces chants naissent sans semaille ordonnée, sans protection, sans apprêt. Je vous cite toujours Saïd Bahodine Majrou. Ils sont au sens strict hors champ, hors du champ culturel, exclusivement réservé aux hommes de par leur contenu et par là hors du champ social. Les sentiments et les idées qu'ils véhiculent ne laissent d'ailleurs aucun doute quant au sexe de leurs auteurs. Jamais un mâle pachtoun ne pourrait évoquer certaines intrigues, fût-ce de manière parodique. Il lui est par exemple psychologiquement impossible de mettre en scène un amant à la virilité défiée ou à la dignité humiliée. Ainsi, tous les landais, ces brefs chantés par les femmes, présentés dans les textes que je vous lirai tout à l'heure, du moins certains extraits pour aujourd'hui, ils proviendront du florilège féminin, l'authenticité de leur sonorité se révélant absolument incomparable. Car c'est un visage fascinant qui émerge de ces textes, où la femme chante et parle d'elle-même, de l'homme et du monde qui l'entoure. Un visage fier, impitoyable, révolté. Alors peut-être faut-il rappeler dans quelles conditions vit la femme pachtoune dans sa communauté, qui est d'une structure fortement tribale et clanique, et où la condition féminine est particulièrement douce. Il y a un groupement de guerriers dont seuls les adultes mâles appartenant à la tribu et à ses sous-clans sont membres de plein droit. Et cette société se trouve entièrement régie par les valeurs masculines avec pour loi de base le code de l'honneur. Dans un tel environnement, virilisé à l'extrême, puis et fanatique à sa façon, la femme subit une double oppression physique et morale. Physiquement, comme beaucoup de femmes dans le monde, elle supporte la charge des tâches domestiques les plus épuisantes. Et si les hommes échangent des coups de feu de temps en temps et vont au champ épisodiquement, la plus grande partie de leur vie se passe à la mosquée ou sur les places du village, là où se discutent les affaires de la politique tribale. La femme, elle, travaille dès avant l'aube jusque tard dans la nuit, l'année durant. Et en plus de l'aide qu'elle apporte pendant les récoltes, elle assume un labeur régulier, permanent, sans repos, sans congé. Au moins deux fois par jour, matin et soir, elle va pour la corvée de l'eau, à la source ou à la rivière, parcourant parfois des distances considérables, transportant sur sa tête ou sous les bras des récipients très lourds. Elle s'occupe des enfants, qui sont toujours nombreux, de la cuisine, du bétail. Elle moule le grain, prépare la farine, cuit le pain, file la laine, coud les vêtements, fait sécher l'engrais animal, irrigue les cultures. Or, cette femme ne se plaint jamais de son travail d'esclave. Rares sont les landais où elle mentionne ses « doigts de velours » entre guillemets, avec lesquels se ramassent les épis de blé ou bien sa cruche trop lourde qui lui occasionne des douleurs dans le dos. En fait, ce qui le fait la plus souffrir, c'est le côté moral de son asservissement. Elle se sent réprimée, bafouée, tenue pour un être de second rang. Dès le berceau, elle est accueillie avec tristesse et honte, une honte qui n'épargne d'ailleurs pas la mère qui engendre une fille, le père qui apprend cette arrivée inopportune semblant deuil, tandis qu'à la naissance d'un garçon, vous le savez bien, le père donne une fête, tire des salves de fusil. Et puis, la fillette devient ensuite monnaie d'échange entre les familles claniques sans jamais être consultée. Elle passe toute son existence dans un état d'infériorité, de subordination et d'humiliation. Même son mari ne daigne pas manger avec elle. Alors, face à cet état de choses, à ce carcan ancestral, quelle peut bien être la réaction de la femme? Apparemment, c'est la soumission complète. Elle accomplit son travail comme une horloge, elle accepte et subit le système des valeurs qui fait d'elle un objet parmi d'autres. Pourtant, si l'on y regarde d'un peu plus près, il s'avère qu'au secret d'elle-même, la femme pachtoune s'indigne, conteste, entretient sa révolte. De cette protestation, enfouie jour après jour, durcie, elle ne livre finalement que deux témoignages. Son suicide et son chant. Et je vous rappelle que c'est le titre du livre écrit par Saïd Bahodin Majrou, écrit dans le sens où il a réuni plutôt ces landais composés oralement par des femmes. Du suicide, eh bien on sait que le code d'honneur tribal le considère comme une lâcheté, que l'islam l'interdit. Jamais un homme pachtoune ne s'y résout. Aussi, en se supprimant de cette façon honnie, la femme proclame-t-elle tragiquement sa haine de la loi communautaire. Même le choix des moyens de mort souligne le sens iconoclaste du sacrifice. Celui-ci ne s'accomplit que par empoisonnement ou noyade volontaire. Il n'y a ni balle tirée dans le cœur, ni pendaison, car les relais nécessaires, fusils ou cordes, touchent de trop près les mains exécrées. C'est avec le fusil que l'homme chasse et guerroie, et c'est avec la corde qu'il attache le bétail, lit les fagots et tire les lourdes charges. Si par son suicide, la femme pachtoune impose un acte socialement irrécupérable, elle développe, par son chant, un défi de nature identique qui peut lui aussi, à sa manière, se révéler fatal. Car inlassablement, ses mélodies exaltent trois thèmes au goût de sang, l'amour, l'honneur, la mort. Et tout de suite, je vais vous en lire, j'espère le mieux possible, quelques-uns qui évoquent l'amour. L'amour de la femme est bien sûr tabou, frappé d'interdit par le code d'honneur de la vie pachtoune et par le sentiment religieux. Les jeunes gens n'ont pas le droit de se fréquenter, de s'aimer, de se choisir. L'amour est une faute grave, punie de mort, et les indisciplinés sont tués froidement. Le massacre des amants ou de l'un d'eux, qui est toujours et sans exception la femme, amorce le processus sans fin de la vendetta entre les clans. La femme est victime de toutes sortes de mésalliances et d'arrangements. Son mari lui est imposé et il est souvent un enfant ou un vieillard. Et c'est ce compagnon imposé qu'elle appelle le petit affreux. Et il n'y a pas un seul de ces landais, de ces brefs, qui témoigne d'un amour conjugal ou de sentiments de tendresse et de fidélité à l'égard de l'époux. L'amour et la fidélité sont réservés à l'amant. La femme évoque ainsi ces deux mésalliances. Le destin m'a donné pour époux un enfant que j'élève. Mon Dieu, quand il sera grand et fort, moi, je serai vieille et faible. Jean Cruel, vous voyez qu'un vieillard m'entraîne vers sa couche et demandez pourquoi je pleure et m'arrache les cheveux. Oh mon Dieu, tu m'envoies de nouveau la nuit sombre et de nouveau je tremble de la tête aux pieds car je dois monter dans le lit que je hais. Oh Seigneur, de nouveau elle est là ta nuit longue et triste et de nouveau il est là mon petit affreux. Et il dort. Mon amour, saute dans mon lit et ne crains rien. S'il se casse, le petit affreux est là pour le réparer. Quand tu viens chez nous, mon amant, le petit affreux se fâche. Ne viens plus. Désormais, je te tendrai ma bouche entre les battants de la porte. Dans le domaine de l'amour, la femme contestataire pachtoune exprime son sentiment de révolte d'une manière autrement plus éloquente. Dans un milieu social où ce qui nomme la passion et la sexualité passe pour strictement tabou, elle ne craint pas d'aborder ces thèmes sans détour avec une brutale sincérité. Être de chair et de sang, elle est fière de glorifier son corps, l'amour charnel et le fruit défendu. Elle se comporte comme si elle voulait volontairement choquer, scandaliser les hommes, les provoquer dans leur virilité même. Et ce qui confère une force particulière à ce discours, c'est qu'aucun sentiment de tendresse ou de pitié ne s'y mêle. Qu'une femme crie si haut son amour impose socialement le scandale. J'aime, je ne le cache pas, je ne le nie pas. Même si l'on m'arrache au couteau pour cela tous mes grains de beauté. Hier soir, j'étais près de mon amant, ô veillée d'amour qui ne reviendra plus. Comme un grelot avec tous mes bijoux, je tintais dans ses bras jusqu'au fond de la nuit. Pose ta bouche sur la mienne, mais laisse libre ma langue pour te parler d'amour. Ma bouche est à toi, dévore-la, ne crains rien. Elle n'est pas d'un sucre qui risque de se dissoudre. Demain, les affamés de mes amours seront satisfaits, car je veux traverser le village à visage découvert et chevelure au vent. Prends-moi d'abord dans tes bras et serre-moi, et puis tourne mon visage et baise un à un tous mes grains de beauté. Viens près de moi, mon amour. Si la pudeur t'empêche de me frôler, moi je t'attirerai dans mes bras. N'y a-t-il pas un seul fou dans ce village? Mon pantalon couleur de feu brûle sur mes cuisses. Mon amant veut que je l'embrasse dans le feuillage du mûrier. Et moi, je grimpe de branche en branche pour lui donner ma bouche. Déjà, le coq maudit est son triste chant de départ. Et mon amant s'en va comme un oiseau blessé. Thank you. Voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête dans la lecture des extraits de poésie populaire composée par des femmes pashtounes, femmes de l'Afghanistan, d'un livre écrit par Saïd Bahodin Majrou, plutôt un recueil de textes qu'il a retrouvé dans les villages dans lesquels il s'est baladé. Je vous rappelle que Saïd Bahodin Majrou a été assassiné à Peshawar au Pakistan en 1988. Voilà pour aujourd'hui, remue-ménage, c'est presque terminé. La lune monte dans le ciel, j'espère que vous l'avez aperçue ou est-ce que c'est tout couvert? Je ne sais pas, vous découvrez cela tout de suite dans vos oreilles. Remue-ménage terminé, la semaine prochaine, nous rencontrerons Françoise Faure. Françoise Faure est une femme qui a des vignes au pied du Jura, mais qui est surtout engagée très très fort avec les Palestiniens, avec la Palestine, et qui viendra nous faire une sorte d'analyse de la situation aujourd'hui. Et puis, en même temps, on parlera de comment, à partir du fait qu'elle est vigneronne, elle en est arrivée à s'occuper de la Palestine. Voilà, la semaine prochaine, dans Remue-ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8, et dans quelques instants, les informels de Radio Pleine Lune. We'll be right back.